Sortie de boîte. Sortie de boîte, Alizé Lichty.
Il faisait gris et il pleuvait lorsque je suis arrivée devant le bâtiment de Serrières où j'avais rendez-vous. Après avoir suivi les panneaux, j'ai gravi les quelques marches qui m'ont emmenée à la réception. On m'a ensuite présenté à mon invité. Je me suis immédiatement sentie à l'aise et bien accueillie et nous avons pu discuter de son parcours atypique. Il portait une chemise bleu clair, un pantalon noir et des lunettes. Si je vous parlais du temps, c'est parce que l'entreprise que je suis allée visiter est spécialisée dans la coloration d'aluminium. Du coup, l'extérieur terne et pluvieux contrastait avec les bacs de coloration que j'ai ensuite pu découvrir lors de la visite du propriétaire. Nous nous sommes ensuite rendus dans un autre bâtiment situé quelques mètres plus loin. Là, il a fallu faire attention à ne pas glisser car le sol était recouvert d'huile. Car la deuxième spécialité de cette entreprise, eh bien, c'est l'usinage. À la tête de tout ça, un homme. Il est un peu arrivé dans le domaine par hasard ou plutôt par la force des choses. Cet homme nous a confié être passionné par les belles mécaniques et par le golf. Cet homme, c'est vous, Cédric Storer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de Coloral à Serrières, dans le canton de Neuchâtel, une entreprise spécialisée dans l'usinage et le traitement de surface. Je viens de le dire, vous êtes passionné par le golf, qui est un sport très exigeant. Votre fonction de directeur, est-ce qu'elle est aussi exigeante ?
Oui, alors effectivement, elle est très demandante.
Parlons de votre parcours qui est, lui, atypique, comme je l'ai dit dans la préparation. Vous n'étiez pas du tout dans ce domaine. Quel est votre métier de base ?
Alors, j'ai suivi une formation dans la technique également, mais dans l'électronique. J'ai fait un apprentissage au CPLN d'électronicien que j'ai complété avec 2 ans de formation pour devenir technicien en informatique. Donc, effectivement, pas grand-chose à voir avec les opérations que l'on fait chez Coloral aujourd'hui.
À ce moment-là, vous vous voyez déjà plus tard comme informaticien dans une boîte ?
Oui, alors c'était mon idée de base. J'étais en ce temps-là passionné par l'informatique. Et puis, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. J'avais un job qui ensuite est devenu un peu ennuyeux, où finalement je faisais plus de support utilisateur que vraiment de programmation et de choses passionnantes. Donc voilà, je cherchais à changer d'entreprise. Il y avait à ce moment-là pas beaucoup d'opportunités dans la région. Et puis un jour, en discutant avec mon père, il m'a dit, ben voilà, moi j'aimerais pouvoir arrêter avant l'âge de la retraite. Est-ce que ça t'intéresserait de venir à Coloral ?
Donc votre papa était responsable ou directeur de Coloral. Est-ce que c'est lui qui a fondé cette entreprise ?
Non, alors la société a été fondée en 1949 par un monsieur Mikhailov. Et mon père l'a racheté, lui, au début des années 80. Alors qu'elle était au bord de la faillite, somme toute.
Justement, comment est-ce qu'il a fait pour redresser la barre dans une entreprise au bord de la faillite ?
Alors, il a choisi un peu son équipe, il a monté une équipe autour de lui, il a investi massivement dans les moyens de production, il a aussi diversifié les activités. C'est lui qui a amené très rapidement, après le rachat, la création du département d'usinage chez Coloral. Et puis, voilà, en remettant aussi en état les procédures de traitement, on a pu retrouver une confiance en la clientèle dont on bénéficie toujours aujourd'hui.
Lorsqu'il vous a proposé de reprendre, entre guillemets, le flambeau, est-ce que vous avez accepté tout de suite ?
Alors, j'y ai réfléchi un moment parce qu'effectivement, c'est un changement assez important d'orientation et de vie professionnelle. Donc, j'ai réfléchi quelques jours et après, ben voilà, je me suis dit, ok, c'est un beau challenge de continuer l'œuvre paternelle. C'est aussi quelque chose d'enrichissant. Et puis, je me suis lancé.
Et puis, vous avez dû faire des formations annexes pour combler, justement, étant donné que vous étiez informaticien, vous passiez dans un tout autre domaine. Comment ça s'est passé ?
Oui, alors j'ai commencé à Colorale, à la réception marchandises, qui est un département très intéressant pour commencer, parce que c'est là où on établit toutes les gammes de traitement. Donc avec une formation interne, j'ai très rapidement pu comprendre comment les traitements de surface que Colorale faisait se passent, à quoi il faut faire attention, etc. Donc c'était vraiment un poste intéressant pour commencer. Et parallèlement au travail quotidien, j'ai pris également des cours de communication, de gestion d'entreprise, de marketing, enfin un peu tout ça.
Vous avez ensuite gravi les échelons petit à petit ?
Oui, alors d'une fois que j'étais bien à l'aise avec les traitements que Colorale proposait, j'ai repris la direction commerciale donc, pour aller expliquer nos traitements à nos clients et pouvoir chercher de nouveaux débouchés.
Vous avez repris l'entreprise avec deux associés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entreprise est toujours une entreprise familiale ? Est-ce qu'il y a d'autres membres de votre famille qui y travaillent ?
Oui, alors nous sommes aujourd'hui trois associés, effectivement. J'ai mon frère David qui s'occupe des finances et des ressources humaines. Et puis monsieur Lentini Giuseppe qui lui est le directeur de production.
C'est facile de travailler dans ce contexte, dans un contexte familial ?
Oui, alors ça se passe très bien. La collaboration est tout à fait saine. On a chacun nos domaines d'activité bien précis, ce qui fait qu'on est complémentaires, on se marche pas sur les pieds, et puis ça se passe très bien. J'ai la chance d'avoir une très bonne équipe autour de moi.
Le nom Colorale nous fait directement penser à la coloration. Est-ce que c'est l'activité principale de votre entreprise ?
Alors, c'est l'activité principale, c'est l'activité historique, effectivement, l'éloxage d'aluminium, le traitement de surface d'aluminium. C'est une activité qu'on a, comme je vous le disais, que mon père a déjà complétée au début des années 80 par l'acquisition de moyens d'usinage pour fabriquer les pièces sur lesquelles on faisait uniquement un traitement de surface. Et puis, c'est le département chez nous qui a connu le plus d'essor ces dernières années, où on a vraiment investi massivement pour acquérir différents types de moyens de fabrication d'usinage, que ce soit du tournage, du fraisage, les deux combinés.
Quand on parle d'usinage, on parle de quoi concrètement ? Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est l'usinage ?
Alors, c'est la fabrication d'une pièce.
Vous prenez un métal brut, vous le coupez par exemple et vous en faites une forme quelconque ?
Voilà, exactement.
Est-ce que ces deux domaines, donc la coloration et l'usinage, s'entrelacent bien ?
Alors, c'est une question intéressante parce que dans notre domaine d'activité principale, donc l'aluminium, on va dire, on a souvent des alliages d'aluminium qui vont très bien pour l'usinage et par contre qui vont nettement moins bien pour le traitement de surface. Donc il faut choisir les bons alliages, il faut pour arriver à la fin au résultat escompté.
Votre entreprise est basée sur deux sites, un à Beauregard, un à Serrières. C'est quelque chose de voulu ou pas du tout ?
Alors, on a pu garder dans le bâtiment de Beauregard jusqu'à la fin des années 90. Toutes nos activités étaient sur ce site-là. On avait à ce moment-là jusqu'à trois tours CNC pour la partie usinage. Puis un beau jour, il nous en a fallu un quatrième. Et puis là, ben voilà, il n'y avait plus de place. On ne pouvait plus agrandir le bâtiment. Donc on a cherché à proximité des locaux disponibles. Et puis on a trouvé dans les anciennes usines de chocolat Suchard des espaces disponibles. Et on y a déplacé là notre site d'usinage. Voilà, c'était une obligation plus qu'un choix. Il fallait des surfaces. C'est pas idéal d'avoir deux sites, effectivement. Mais voilà, il faut trouver des solutions.
On a évoqué justement ces deux sites. On va venir sur le deuxième site, celui de Serrières, où vous faites l'usinage. C'est là qu'on va vous retrouver.
Sortie de boîte.
On a deux étages d'atelier d'usinage. Chaque étage fait à peu près 800 mètres carrés. Sur cet étage ici, on a principalement du tournage. Donc c'est des grosses machines, comme vous pouvez le voir, qui travaillent en barre. Donc on va entrer des barres qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long. Et puis la barre est insérée dans la machine par cette avance-barre ici, et mise en rotation. Et puis, on va y usiner principalement des bacs de lunettes, qui est le produit phare ou historique de Coloral, celui pour lequel on est le plus connu. C'est des pièces qui sont donc entièrement fabriquées par nos soins. Première partie usinage sur ce site, usinage, polissage. Et puis ensuite, les pièces vont être acheminées sur le site de Bourgard pour être traitées.
Une pièce de métal qui entre ici, qui va ressortir de cette machine. Et puis les petites étagères avec les pièces qui sont là, c'est le résultat final.
Voilà, effectivement. Là, on a nos disques en aluminium qui ont été tournés. Vous voyez déjà qu'on a une surface qui est très brillante. On vient faire un diamantage de la surface pour avoir une qualité de pièce la meilleure possible. Donc on fait un usinage au diamant de cette face. Après, on vient encore faire un avivage mécanique, donc une sorte de polissage, si vous voulez, pour avoir vraiment un éclat de la pièce maximale, pour enlever aussi toutes les petites rayes d'usinage qui pourraient rester. C'est vraiment ça qui va faire le résultat final de la pièce.
Alors voilà, on a descendu ces quelques marches pour arriver dans le département où on s'occupe du fraisage. Alors avant, on avait des machines, si on peut les décrire, qui étaient tout en longueur. Là, on est sur des machines qui sont plus des gros cubes.
Effectivement, alors la différence principale, c'est qu'en haut, sur les tours, donc, vous avez la matière qui est en rotation, et puis l'outil qui vient travailler sur cette matière. Et ici, c'est le contraire, si on veut. Donc, vous avez la matière, la pièce qui est fixée sur un étau, sur un posage, donc elle ne peut pas bouger, elle. Et puis, c'est l'outil qui tourne sur lui-même et qui vient travailler la pièce sur toutes ses faces.
Sortie de boîte.
Un reportage réalisé par Joël Picromain et que vous retrouvez en intégralité sur notre site internet. On est de retour dans notre studio de marin avec Cédric Storer. On vient de l'entendre, vous fabriquez beaucoup de pièces pour l'horlogerie. Est-ce que vous avez uniquement des clients dans la branche horlogère ?
Alors l'horlogerie représente le 80% du volume d'affaires de Coloral. Une dizaine de pourcents est faite dans l'industrie médicale, mais plus au niveau des traitements de surface que pour la partie usinage cette fois-ci. Et puis après, les 10% qui restent sont répartis sur différents secteurs.
Alors justement, dans le domaine médical, qu'est-ce que vous fabriquez ?
Alors on va traiter principalement des manches de perceuse pour, par exemple, hein, pour les chirurgiens. Donc si vous devez vous faire opérer de la hanche, que je vous souhaite pas évidemment, le chirurgien va venir travailler les os, couper les os, scier les os avec une perceuse, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde a chez lui. Et nous, on vient faire un traitement de surface particulier sur ces manches-là pour déjà pour leur apporter une couleur et puis pour les protéger contre les stérilisations.
80% de votre production s'adresse à l'industrie horlogère. En 2009, il y a eu la crise horlogère. Est-ce que votre entreprise a eu des difficultés ?
Oui, alors effectivement, avec 80% du volume d'affaires, on est très lié à la marche de l'industrie horlogère. On a une chance chez nous, c'est que dans la plupart des cas, nos clients ne sont pas équipés pour traiter les pièces, pour les traitements que nous faisons. Du coup, ils nous commandent toujours un certain volume de travail, même quand l'industrie est un petit peu ralentie. Il y a d'autres secteurs, par exemple, où les clients sont équipés de moyens de production à l'interne et sous-traitent simplement lorsqu'ils ont des pointes de production. Ce qui fait que dans certains cas, quand ça ralentit, ils coupent complètement l'approvisionnement chez leurs fournisseurs ou sous-traitants. Nous, on a cette chance-là. Nos clients ne sont pas équipés pour faire les traitements qu'on propose. Du coup, ils nous demandent un peu moins, mais ils nous demandent quand même toujours des opérations.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pu limiter les licenciements ?
Oui, alors on est à l'heure actuelle une soixantaine de collaborateurs chez Coloral. Le maximum que nous avons été, c'était un peu plus de 80, et le minimum 49, je crois. Donc effectivement, on s'adapte avec l'effectif en fonction de l'évolution du marché.
Votre deuxième activité, c'est donc la coloration ou le traitement de surface. Certaines pièces que vous réalisez ne passent pas par cette seconde étape. D'autres, oui. Vous les traitez en surface, mais vous leur faites quoi concrètement ? Ça se passe comment ?
Alors, on fait de l'oxydation anodique d'aluminium ou de l'éloxage. C'est un terme qui parlera peut-être un peu plus aux gens. En réalité, on vient faire croître une couche d'oxyde d'aluminium sur une quinzaine, vingtaine de microns d'épaisseur. Et c'est une couche qui est poreuse, donc un peu comme une éponge, si vous regardez ça avec un fort grossissement. Et le fait que cette couche soit poreuse nous permet de faire pénétrer des colorants par capillarité à l'intérieur des porosités de cette couche.
Lorsque je suis venue visiter vos locaux, j'ai pu apercevoir que vous coloriez des stylos de couleurs assez fluo. Est-ce qu'on peut faire tout en termes de couleurs ?
Alors, on ne peut malheureusement pas tout faire. On a cependant une palette de couleurs qui est très large. C'est, je dirais, l'éloxage d'aluminium, c'est le métier des branches de la galvanoplastie sur lequel on a une palette de couleurs la plus large. On a vraiment un choix qui est très élevé. On fait beaucoup de couleurs aussi sur demande de la part des clients. On a juste une limitation, c'est le blanc. C'est pas que Coloral ne saurait pas le faire, c'est les fabricants de pigments de couleurs pour l'anodisation d'aluminium, pour qui c'est techniquement impossible de fabriquer un pigment blanc.
On a parlé de vos produits, on va mettre maintenant le cap sur l'avenir, si vous le voulez bien. Cédric Storer, on l'a dit, vous travaillez sur deux sites. Cela demande forcément pas mal de logistique. Est-ce que c'est vivable sur le court ou le long terme ?
Alors, c'est vivable, c'est pas idéal. On fait avec, effectivement. Nous sommes à l'heure actuelle en train d'étudier la possibilité de faire une nouvelle usine qui regrouperait ces deux sites. Donc c'est un projet d'envergure assez importante et puis pour lequel on a déjà bien avancé. On a identifié quasiment le terrain qui nous conviendrait. On a déjà aussi fait les avant-projets pour la nouvelle usine. Donc tout ça avance bien. Mais évidemment, il y a une grosse inconnue à la fin, c'est quel sera le coût global de cet investissement et est-ce qu'on pourra le financer.
Si le coût est raisonnable, le déménagement serait prévu pour l'année prochaine, l'année d'après ?
Alors, on aurait aimé pouvoir être dans une nouvelle usine en 2019. 2019, ça fera les 70 ans, l'anniversaire des 70 ans donc, de Coloral. Ça fera pour ma part à peu près 20 ans que je serai dans l'usine aussi, donc ça nous aurait plu d'être en 2019 dans le nouveau bâtiment, ça devient un peu court maintenant. On va dire que ce sera, si ça démarre, plutôt 2020.
Le but aussi de déménager, vous produisez aujourd'hui 4500 pièces par jour en termes d'usinage, environ 10 000 en coloration, ça serait aussi peut-être d'accroître vos volumes de production ?
Alors, accroître peut-être pas. On a effectivement à l'heure actuelle 4 chaînes d'anodisation, 2 qui sont manuelles, 2 qui sont automatiques, avec en traitement des capacités qui vont même jusqu'à 100 000 pièces par jour. Donc les capacités sont suffisantes. On va plutôt essayer d'amener d'autres opérations, si on fait une nouvelle usine, d'autres traitements ou d'autres types d'usinage.
Cette semaine, la chronique horlogère nous emmène en voyage, ou plutôt Marie-Lise Saillard nous propose en tout cas de prendre l'avion.
Pile à l'heure.
Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26.
Pas la peine de prendre l'avion pour être dépaysé, il suffit parfois de regarder sa montre. Enfin, tout dépend de la montre que vous avez au poignet. Si c'est la dernière création de la marque Jacques Hédreau, alors c'est sûr, le voyage est instantané. Regardez la Tropical Bird Repeater, c'est plongé dans un autre univers.
C'est comme dans l'air.
Est un vrai concentré de tous les savoir-faire horlogers et décoratifs de la maison Chaudefonnière. Jacques Hédreau, c'est le nom que portaient Pierre et son fils Henri-Louis au XVIIIe siècle. Ces deux horlogers-là sont particulièrement connus pour leurs automates, l'écrivain, la musicienne et le dessinateur. Mais revenons à la Tropical Bird Repeater, qui est un véritable tableau coloré qui célèbre la nature. On y retrouve plusieurs animaux.
Comme le colibri dans les îles, aussi magnifique et fragile.
Quand le colibri s'anime, ses ailes vibrent jusqu'à 40 fois par seconde et son corps se penche pour butiner. Les libellules se mettent à bouger. serpent se met à déployer ses ailes pour faire la roue, ce qui cache le léopard se reposant sur une branche et le toucan ouvre son bec. Ce tableau aux allures de Jardin d'Éden offre 7 animations qui peuvent faire plus de 12 secondes et suivent 4 scénarios. Cette montre est aussi ce que l'on appelle une répétition minute. Ça signifie qu'on peut faire sonner les heures, les quarts et les minutes si on le demande. Ce mécanisme très complexe se sert de marteau à l'intérieur du boîtier pour faire vibrer des timbres cathédrales, des sortes de cloches. La prouesse technique n'empêche pas une grande simplicité d'utilisation puisqu'il suffit de pousser un bouton pour activer le mécanisme. Sachez encore qu'il n'existe que 8 exemplaires de la Tropical Bird Repeater de la collection Automate de Jacques Hédreau. La marque n'a pas communiqué sur le prix, mais vous pouvez assurément compter en centaines de milliers de francs.
Pile à l'heure.
Cédric Storer, vous me l'avez dit, vous êtes passionné par les belles mécaniques. Vous portez quoi à votre poignet ? Est-ce que vous portez une montre avec des oiseaux ou c'est plus sobre ?
C'est un peu plus sobre, effectivement. Non, aujourd'hui, j'ai une belle montre d'une marque dont on taira le nom. On aime bien rester discret dans la branche, mais chez Coloral, on a la chance d'avoir quasiment l'intégralité des marques horlogères qui nous consultent pour différents travaux. Alors évidemment, en fonction de la gamme, du prix, c'est pas les mêmes quantités, c'est pas les mêmes exigences sur les pièces, mais c'est un monde qui est passionnant, où on a des créateurs qui sont juste fantastiques. On citait avant dans l'émission une marque chaudefonnière qui fait des montres formidables. Et il y en a encore beaucoup d'autres, évidemment.
Hier, vous avez mis en ligne un nouveau site internet où vous mettez en avant vos activités d'usinage. Pourquoi ce choix ?
Alors, Coloral, comme le nom l'indique, était à l'origine uniquement une société qui faisait du traitement de surface. Et puis, par l'historique, par le nom de société qu'on a gardé, évidemment, on est aussi parfois un peu cantonné à ces travaux de traitement de surface et on cherche à faire connaître ou à rappeler à notre clientèle que nous avons bien d'autres capacités.
Rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, quel est l'avenir de Coloral ?
Alors, l'avenir est radieux. On a une situation horlogère qui redémarre très fort ces derniers mois. Un beau projet de nouvelle usine, des projets de développement dans différents domaines. Donc, tout va pour le mieux.
On vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été notre invité, Cédric Storer. Très bonne soirée à vous.
Merci à vous, bonne soirée.
La semaine prochaine, vous retrouverez Alexandre Steiner, qui sera en compagnie d'Eric Balestra, un des responsables de Smixin. Je suis sûre que vous aurez envie de vous laver les mains, puisqu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les lavabos écologiques. Excellente soirée, à très bientôt.